on est face à une sculpture en matériaux de récupération, donc fait de cajots et puis de morceaux de bois. Des choses qu'il a récupérées comme ça dans les réserves du musée. Et puis donc cette sculpture, elle doit faire à peu près 3 ou 4 mètres de long. Elle s'appelle le Grand V et elle a été réalisée spécifiquement pour les allées du cloître du musée. Et voilà, elle est... Alors il faut bien sûr la voir pour sentir ce contraste en fait entre sa fragilité, elle est simplement posée sur le sol, de manière assez instable, et en même temps elle est tendue par ce fil, par cette corde et ce système de tension. Et c'est ce qui résume aussi beaucoup le travail de Claude, tout ce qui, entre la fragilité d'une installation et puis la tension qui existe, la collaboration, puisque ce grand V, en fait, ce sont deux grands panneaux, voilà, qui se soutiennent mutuellement, et puis cette instabilité et ce mouvement, en fait, qui est latent.
Jusqu'au 3 avril, l'Être-Lieu et le Musée des Beaux-Arts d'Arras vous proposent une double exposition intitulée « À bout de bras », consacrée au travail de l'artiste contemporain Claude Cathelin. Petit extrait de la visite de l'expo côté musée, en compagnie de Mélanie Lerat, qui en est la directrice adjointe.
Donc l'exposition occupe le rez-de-chaussée du musée et se trouve à la fois dans les allées du cloître, le péristyle, et puis dans certaines salles d'exposition. Si vous voulez, on peut aller voir le péristyle. Donc évidemment, pour lui, c'est un artiste très minimaliste qui travaille beaucoup sur l'économie des moyens. Donc là, on voit à la fois des téléviseurs qui sont posés à même le sol, et puis des installations en bois brut, en pin brut. Et c'est vraiment quelqu'un qui travaille sur cette économie-là, des moyens, et en même temps, il a investi ce lieu, ce musée, qui se trouve dans une ancienne abbaye, dans ce cloître, qui est vraiment typique de l'architecture 18e, donc avec cet aspect assez décoratif, assez présent. Évidemment, c'est la rencontre de ce minimalisme, de ce dépouillement, qui vient comme ça rompre avec à la fois le décor du monument et puis ses grandes lignes architecturales. On s'est aussi amusé donc à positionner des œuvres de Claude, donc des œuvres d'art contemporain, au milieu des collections du musée. Le musée, c'est des collections classiques, 32 000 objets du Moyen-Âge à la fin du 19e. Et puis on a placé ce dessin répétitif, là aussi très minimaliste dans ses formes, dans ses moyens, au milieu en fait des sculptures du Moyen-Âge et notamment des monuments funéraires. Et du coup, en fait, ce dessin répétitif, c'est l'empreinte des pieds de l'artiste. Il a foulé une feuille de papier, en fait, pendant toute une journée. Et sur cette feuille de papier, il avait dispersé du charbon noir. Et ses pieds forment une trace blanche et le charbon se disperse tout autour. Du coup, c'est à la fois la trace d'une performance, d'un geste qui a été, alors d'un geste répété, là aussi d'une forme de performance physique, on va dire d'un effort physique. Et en même temps, c'est une trace quasi fantomatique, quelque chose qui est assez énigmatique, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne comprend pas forcément du premier coup, mais qui se laisse comme ça appréhender à la fois visuellement et puis ensuite, quand on entre dans la signification de l'œuvre et le geste de l'artiste, on peut petit à petit comprendre ce dessin.
Ça vous évoque quelque chose ?
Si ça m'évoque quelque chose, on dirait un peu quand même de yeux qui nous regardent,
oui,
peut-être.
Oui, oui.
Je trouve ça vraiment, vraiment beau.
Oui. On dirait qu'il a été fait pour le lieu.
C'est vrai.
Et en fait, on est juste à côté de pierres sculptées du Moyen-Âge et de pierres qui étaient installées sur le pavement en fait, des églises ou des monuments, des bâtiments religieux. Du coup, il y a aussi un vrai lien dans la fonction ou dans ce qu'a été ces pierres du Moyen-Âge, ce qu'ont été ces pierres du Moyen-Âge et des pierres aussi qui sont en pierre noire, pierre bleue, pierre foncée. Donc évidemment, il y a aussi une connotation, en tout cas un jeu d'écho visuel entre ce dessin et puis ces sculptures médiévales. Je suis Mélanie Lera, directrice adjointe du Musée des Beaux-Arts d'Arras, conservatrice du patrimoine.
En charge en particulier de l'art contemporain ici au Musée des Beaux-Arts d'Arras ?
Oui, tout à fait, au Musée des Beaux-Arts d'Arras, et puis avec aussi une mission sur la ville pour développer l'art contemporain, qui n'est pas forcément très très présent, mais voilà, qu'on cherche à développer, alors sous toutes ses formes. Donc c'est aussi l'occasion, ces résidences, expositions avec l'atelier, c'est aussi l'occasion de montrer des formes artistiques très différentes. On avait invité l'année dernière Pierre-Yves Baume, qui était un peintre. Aujourd'hui, nous sommes plutôt avec un artiste performeur, alors qui est à la fois vidéaste, qui fait du dessin. Voilà, c'est aussi ouvrir à toutes les formes artistiques.
Concrètement, votre mission, c'est de faire découvrir des artistes contemporains aux Arrageois en invitant des artistes et leurs œuvres, en les faisant voyager à la fois ici au musée et puis peut-être aussi ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc le développement de l'art contemporain est maintenant pleinement inscrit dans le projet culturel de la ville d'Arras. Donc c'est à la fois, je dirais, avoir ce travail de diffusion, de valorisation auprès du public. Et puis c'est aussi tout simplement soutenir les artistes, puisque voilà, les artistes vivants ont besoin de travailler, d'être montrés. Et c'est aussi soutenir ce type de réalisation artistique. Alors ça peut être au musée, sous la forme de résidence, d'exposition, de prêts aussi d'œuvres. Dans la dernière expo dans Sacrebleu, il y avait aussi des œuvres d'art contemporain qui étaient prêtées par soit des artistes, soit des collectionneurs. Et c'est aussi donc l'occasion de les inviter, de leur donner aussi le musée comme terrain de jeu quelque part, le musée, sa collection, son bâtiment. Et puis c'est aussi, on essaie aussi de sortir des murs de ce musée, de cette abbaye, et pourquoi pas aller notamment dans des établissements scolaires, aller aussi dans l'espace public, voilà, lorsque c'est possible.
Quel rapport, vous diriez, enfin, c'est une question compliquée parce qu'on ne peut pas généraliser non plus, mais quel rapport les gens ont à l'art contemporain ? C'est quelque chose qui peut paraître lointain, et en même temps, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont passionnés par ces formes d'art.
Oui, alors l'art contemporain, c'est, pour nous, c'est une manière de ne pas figer le musée, de ne pas figer l'établissement, mais c'est aussi une manière de faire venir d'autres types de publics. Et c'est vrai que l'art contemporain, c'est assez déconcertant pour nous, puisque ça peut intimider un certain type de public qui a l'impression de ne pas comprendre, ou qu'il y a quelque chose justement à comprendre de très précis, et pour lequel il n'aurait pas les codes. Et du coup, c'est aussi tout un travail de médiation, voilà, à travers les livrets de visite, mais aussi à travers des conférences, à travers des visites guidées. Je pense que c'est aussi très important de donner des clés de compréhension. Et puis, c'est aussi un art finalement assez instinctif, assez visuel, assez direct, et qui peut aussi parler, qui parle très très facilement aux plus jeunes. Et ça plaît aussi évidemment aux adolescents, aux jeunes, et c'est aussi pour nous une manière de les attirer au Musée des Beaux-Arts.
À Arras, il y a quand même une forme de dynamique autour de l'art contemporain. Il y a vous, ici au Musée des Beaux-Arts, il y a l'association Lettre-Lieu à Carnot-Gambetta, il y a aussi le projet Appel d'air, me semble-t-il, du côté de la fac, il y a le collectif Arzimut, et puis il y a aussi quelques artistes qui sont sur le territoire.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'initiatives très différentes. On peut aussi ajouter Cité Nature, qui invite certains artistes. On peut aussi ajouter le Tandem, qui peut aussi faire venir des plasticiens. Donc c'est vrai qu'il y a un maillage finalement assez dense. Il y a beaucoup d'initiatives, mais c'est vrai aussi d'une manière générale sur le domaine culturel, sur les associations. C'est une ville qui est quand même très dynamique.
Et en même temps, comment vous voyez, vous, la place de l'art contemporain à Arras ? Il y a ce dynamisme, mais en même temps, il y a aussi une forme de retard. Et puis, bon, c'est quand même aussi une petite ville, Arras. Enfin, comment vous voyez un petit peu la place de l'art dans la ville, l'art contemporain ?
Alors, je la vois déjà au musée. Voilà, une manière aussi, avec ses résidences et avec ses rendez-vous réguliers, d'instaurer, de fidéliser le public, et puis aussi de construire son regard. Et pourquoi pas un jour, finalement, étendre ce parcours chronologique du musée, voilà, ces collections qui s'arrêtent aujourd'hui à la fin du 19e, début du 20e siècle. Pourquoi pas essayer de pousser ce parcours chronologique, montrer des œuvres du 20e, montrer des œuvres d'art contemporain au sein même des espaces du musée. Voilà, pour vraiment introduire ce genre artistique. Et puis ensuite, je crois qu'il n'y a pas forcément de retard ni d'avancée. Il faut construire un public, il faut construire un regard. Et c'est vrai qu'avec toutes ces initiatives, que ce soit Appel d'air ou que ce soit certaines expos, je pense notamment à Cité Nature ou Arzimut, qui va plutôt travailler sur les métiers d'art ou sur le faire. Je pense que c'est plein, enfin, tout un ensemble d'initiatives qui finalement se complètent très bien. Et puis voilà, à la ville de s'emparer de cet esprit-là, et puis de faire de l'art contemporain un moteur, quelque chose de très dynamique et qui la fait vivre.
Un mot sur la collaboration du Musée des Beaux-Arts avec l'Être-Lieu, un projet atypique hein, dans une école, enfin un lycée. Alors comment ça se passe un petit peu? Vous discutez autour de la possibilité d'inviter des artistes en commun, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors l'artiste est choisi en mai-juin de chaque année, et donc il est choisi en partenariat. Donc on met en commun les idées, ce qui nous a plu, ce qu'on a vu dans les expositions. Et puis on va s'arrêter sur un artiste qu'on invite aussi, donc on lui fait visiter les deux lieux. Et puis voilà, c'est aussi quelque chose, on met aussi l'humain, vraiment, on donne beaucoup d'importance à l'humain, à la relation que l'on peut avoir avec l'artiste, parce que ce sont des résidences assez longues, donc ça demande aussi un investissement, ça demande, je dirais, la difficulté, ou en tout cas le challenge pour ce type de partenariat, c'est que finalement il y a trois objectifs qui se rencontrent. C'est qu'il y a l'Être-Lieu avec ce projet pédagogique. Nous, un musée classique qui cherche à trouver une dynamique et qui cherche aussi à trouver une forme de relecture du bâtiment, de la collection. Et puis surtout, ce qui nous importe beaucoup, c'est que l'artiste ne perde pas de vue son cap, ses recherches artistiques, et que ce ne soit pas quelque chose que le résultat de la résidence, de l'exposition ne dénature pas. Que voilà, ce soit un prolongement de sa propre réflexion. Donc finalement, ces trois défis comme ça qui se rassemblent, et voilà, c'est une mise en commun de toutes ces forces. Après, pour le musée, ce qui est très intéressant, c'est qu'on part d'une page blanche. Donc au mois de juin, on dit à l'artiste qu'il a carte blanche. Donc ce qui veut dire que voilà, ça lui laisse aussi toute la latitude pour imaginer son intervention dans le bâtiment. Et puis nous, on bénéficie aussi du dynamisme, évidemment, des étudiants, de l'Être-Lieu, de leur créativité, de leur folie, en tout cas de leur engagement, notamment dans la médiation. Ils étaient présents le jour du vernissage. Et voilà, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup.
Claude Catelin, c'était un artiste qui remplissait tous les critères de vos recherches. Et puis, alors je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'artistes performeurs qui sont venus exposer ici à Arras et montrer ce qu'ils font.
Alors, en artiste performeur, quelque part, on avait invité Moussa Sarr, qui développait une forme artistique proche de la performance, là aussi sous différentes formes, photographie, vidéo, mais avec une esthétique totalement différente, avec un rapport à la création tout à fait différent de celui de Claude. Donc c'est vrai que pour nous, c'est aussi très important de renouveler les histoires artistiques chaque année et de repartir vraiment sur une base tout à fait nouvelle.
Mélanie Lerat, directrice adjointe du Musée des Beaux-Arts d'Arras, le musée et l'Être-Lieu vous proposent en ce moment et jusqu'au 3 avril cette double exposition intitulée « À bout de bras » consacrée au travail de Claude Catelin.
Bonjour, je m'appelle Claude Catelin. Je suis à Arras depuis quelques mois pour une résidence, un workshop avec des étudiants au lycée Carnot, et une résidence aussi de création avec le musée de la ville.
Alors on va peut-être commencer du côté du musée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail avec le musée des Beaux-Arts d'Arras?
Alors au musée, mon travail, c'était essentiellement un travail de création. Qui est lié à l'espace particulier du cloître, voilà, qui est un lieu dans lequel, en général, il n'y a pas d'exposition, qui est plutôt un lieu de déambulation. Et donc moi, sur le fond, j'ai une pratique plutôt de performeur, disons, ou de vidéaste. Et donc j'ai déployé une série de travaux qui me semblaient être en résonance particulière avec ce lieu. Et ces travaux consistent essentiellement en des vidéos qui ont été réalisées avec les étudiants ici de Cagnes et d'Hippocagne, donc du lycée Carnot, qui ont bien voulu jouer le jeu à des actions que je leur ai demandé de réaliser et qu'ils ont fait devant la caméra. Donc ce sont ces films qui sont essentiellement montrés dans la salle péristyle qui est accolée au cloître. Donc ça, c'est la grande partie de l'exposition. Et puis l'autre partie, ce sont aussi des sculptures qui ont été réalisées un peu... En art contemporain, on a souvent le mot in situ pour parler de ça. C'est-à-dire des œuvres qui ont vraiment été faites par rapport à l'espace, donc qui ont une certaine échelle qui se développe dans l'espace quand même assez grand de ce cloître. Et pour le coup, là, ce sont deux sculptures, une qui s'appelle Grand V, qui est une espèce d'assemblage de poutres en porte-à-faux, de planches, de choses comme ça, de planches de récupération, qui tiennent un peu par magie l'une sur l'autre. Et une autre sculpture, là, qui s'appelle, dont j'ai oublié le titre, qui s'appelle, je ne sais plus, Un couloir dans un couloir. Et ça m'intéressait ce titre, parce que c'est vrai que le cloître, c'est un assemblage de couloirs, de quatre couloirs. Et de recréer un couloir dans celui-là, ça m'amusait. Et ce couloir, il a comme une spécificité, c'est qu'il est fait à mes dimensions. Alors souvent dans mon travail, les dimensions de mon corps reviennent. Elles sont très mathématiques, c'est 186 cm et des poussières sur à peu près 50 cm de large, quand je suis de face. Et donc le couloir que j'ai réalisé en bois, le couloir dans couloir, est à ces proportions-là. Et les gens sont invités, s'ils le désirent, à passer par ce tunnel, en fait, qui est à mes propres proportions. Voilà, une espèce de jauge, de mètre ruban qui a les proportions d'un corps. Enfin, on peut penser à ce que pouvait faire Léonard de Vinci dans ses fameux dessins sur la proportion du corps humain.
Justement, 1m86, c'est aussi la hauteur de ce pieu que vous avez enfoncé hier soir, lundi 13 mars, lors du vernissage de l'exposition au Musée des Beaux-Arts d'Arras. Donc une performance où vous enfoncez un pieu dans le sol. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette performance?
Alors, ça peut paraître étonnant d'enfoncer un pieu et de considérer que c'est une action qui est artistique, alors, bien que le mot artistique soit un peu flou pour moi. En tout cas, l'action consiste à enfoncer effectivement ce pieu qui mesure la même taille que mon corps jusqu'au moment où il est complètement enfoncé. En tout cas, c'est le but de l'action, c'est qu'il disparaisse complètement. C'est une sorte, à mes yeux, d'enfouissement volontaire, non pas de ma personne, mais de quelque chose qui est presque à mon image. Et puis de le laisser là, vacant, sous le sol, invisible, comme une sorte de présence inversée, voilà, d'une action et d'un corps qui aurait été en positif et visible pendant un certain moment. Et ça fait écho effectivement à cette idée d'avoir une présence, mais qui est plutôt symbolisée par ou représentée par le creux ou par le vide qu'elle a créé. Donc il y a un rapport aussi de cette performance 186 cm sous le sol avec ce couloir dans le couloir qui est également une proportion. Et puis ça semblait intéressant de faire cette action d'enfoncer un pieu dans le centre du jardin qui est encerclé par le cloître, parce qu'enfoncer un pieu, c'est aussi une sorte de geste inaugural, voilà, comme une ouverture, un peu comme quand on claque la bouteille de champagne sur un navire avant qu'il démarre. Et c'est aussi un jalon, c'est aussi un pieu qui a été enfoncé à d'autres endroits, enfin pas celui-là, mais d'autres qui le précèdent ont été enfoncés dans des endroits où j'ai eu l'occasion d'exposer, voilà, qui sont importants dans mon parcours. Et dans beaucoup de ces endroits, il y a aussi un pieu qui a été posé et qui est aujourd'hui pourri probablement dans l'humidité de la terre.
Alors ici, on est à l'Être-Lieu, donc vous fréquentez cet espace où vous avez rencontré donc les élèves en post-bac ici, avec lesquels vous avez travaillé. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail?
Alors il y a eu deux parties, disons, à notre rencontre avec les étudiants de Cagnes et d'Hypocagnes. La première, c'était que eux travaillent sur des projets par groupe. Donc il y avait 7 ou 8 groupes de 5 ou 6 étudiants à chaque fois qui bossaient sur des projets, plutôt des choses expérimentales, enfin plutôt des expériences, oui, sans toujours avoir une intention bien précise sur le but, sur la destination, etc. Donc c'était plutôt des recherches par groupe. Voilà, un peu dans tous les sens, il y a eu des films d'animation, il y a eu des étudiants qui ont préféré faire des choses plus chorégraphiées, d'autres qui ont fait des sortes de performances dans des volumes qu'ils ont créés. Donc voilà, c'est un petit peu cette espèce de recherche de brouhaha, de tentatives parfois réussies, parfois échouées, qui a voilà, constitué la première partie de ce workshop avec eux. Et puis la deuxième partie était plus personnel, parce que je leur ai demandé de participer à un projet, à des vidéos que j'avais envie de réaliser pour mon propre travail, mais avec leur présence. Et donc, ils ont été chouettes parce qu'ils ont accepté cette action-là, cette performance-là. Ils se sont prêtés donc au jeu. Et il y a deux vidéos qui ont été tournées où ils sont les seuls acteurs. Moi, pour une fois, alors que je suis très, très souvent dans les images que je tourne, je suis autant réalisateur qu'acteur ou ouvrier des choses que je peux réaliser. Là, j'étais juste derrière la caméra en donnant quelques indications, mais pas trop. Et eux sont actifs et sont les seuls acteurs de ces trois films réalisés, dont un est montré ici à l'Etrelieu et les deux autres sont montrés dans la salle péristyle du musée.
Suite de notre entretien avec Claude Cattelin, artiste contemporain en résidence à Arras, à l'Etrelieu et au Musée des Beaux-Arts.
On parle un petit peu avec vous de l'art de la performance et comment c'est arrivé finalement, vous, dans votre parcours artistique, et puis aussi peut-être quelle liberté vous trouvez dans cette forme artistique.
Alors, je suis toujours embêté en parlant de performance parce que on est obligé d'utiliser ce mot parce que c'est un mot un peu générique et qui est un peu fourre-tout, dans lequel on peut mettre beaucoup de choses, et surtout effectivement les actions qui se font en public, enfin voilà, où un public est invité pour assister à un événement. Il se trouve que moi, c'est pas vraiment ma préoccupation, même si je fais des actions en public. C'est-à-dire que moi, mes gestes, mais les actions que je peux faire, elles se déploient sous différentes formes. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de faire une action qui sont de manière assez schématique, ou on pourrait dire que ce sont des actions physiques, des actions qui peuvent parfois paraître absurdes aux yeux des spectateurs, bien que moi, en les faisant, je ne les trouve pas absurdes du tout, mais je les trouve très sérieuses. En tout cas, je les fais très sérieusement. C'est des actions où il y a l'idée d'aller jusqu'au bout d'un effort, enfin voilà, d'un geste qui se répète jusqu'à peut-être il s'essouffle. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ces actions se déploient sous différents formats, sous différents médiums. Le premier, qui est le plus important à mon avis, c'est celui de la vidéo. Et dès lors, ces actions sont faites par rapport à l'œil de la caméra, et donc par rapport au cadre qui est spécifique, que ce soit le 4/3, soit le 16/9, etc. Et donc ces actions ne sont visibles que sur ce support-là. Et par contre, il y a d'autres actions qui, elles, me semble plus juste ou plus appréhendable sous forme d'action publique, où les gens peuvent se déplacer de manière assez naturelle, comme ils l'ont envie, autour, se rapprocher, s'éloigner, se barrer si ça les fait chier. Enfin voilà, quelque chose où finalement le regard est moins concentré que sur un écran vidéo ou cinéma. Donc ce rapport à la performance, il est surtout lié à ça, à cette volonté de faire un geste, en pensant que la meilleure manière de le restituer, c'est d'inviter les autres à alors pas y participer, parce que les actions que je fais sont le plus souvent solitaires, c'est-à-dire que c'est moi-même qui me mets à l'épreuve d'une action que j'ai décidée, mais néanmoins la présence du public amène une tension et voilà une émotion aussi parfois qui est toute particulière.
Je reviens sur ce rapport à l'effort, à la performance, à une forme de recherche de l'épuisement. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous dans votre travail? Est-ce que c'est, vous avez besoin de ça pour montrer que c'est quelque chose de sérieux, et que montrer peut-être aux gens qui regardent les vidéos ou aux spectateurs que c'est vraiment quelque chose de sérieux?
Ouais, il y a quelque chose d'assez juste dans ce que vous dites. C'est vrai que c'est peut-être dû à une éducation catholique où la notion d'effort est importante, et c'est comme si un travail ne pouvait être intéressant que parce qu'on y a travaillé sérieusement, longtemps, réfléchi, etc., qu'on l'a modifié, qu'il s'est transformé. Enfin voilà. Donc c'est vrai que peut-être il y a cette approche-là de cette nécessité-là pour moi de mettre de l'huile de coude et du temps et de l'effort pour réaliser une action, qu'elle soit montrée sous forme de dessin, vidéo, performance. Mais c'est quelque chose aussi qui change, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez emblématique de beaucoup de choses jusqu'il y a encore quelques mois, mais le fait peut-être d'être venu ici, ça a peut-être modifié un peu modifié cet état d'esprit d'effort excessif. C'est-à-dire que là, le fait de travailler, de faire travailler des étudiants, l'effort n'était plus de mon côté. Donc il y a une espèce de distanciation qui est en train de se créer, je pense, dans mon travail par rapport à cette nécessité d'absolument travailler longtemps, enfin de répéter tout ça. Je pense que je pourrais me permettre aujourd'hui de faire des choses beaucoup plus légères et réaliser beaucoup plus rapidement.
De manière générale, comment vous avez vécu finalement cette expérience de résidence ici à l'Étrelieu, dans la cité scolaire Gambetta?
Plutôt bien, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de faire des workshops, donc c'est d'intervenir dans différents environnements scolaires, parfois même avec des tout-petits ou parfois avec des gens qui sont totalement engagés déjà dans un parcours artistique quand c'est dans des écoles d'art. Donc c'est quelque chose que j'aime faire, mais j'étais néanmoins surpris en arrivant ici de voir l'engagement d'abord de Grégory Fenoglio qui est à l'initiative de ce projet, et puis surtout de l'engagement des étudiants qui pour la grande majorité avaient vraiment envie de participer. Ont vraiment joué le jeu, et plus que ça, on fait même des choses qui n'étaient pas prévues, en tout cas j'avais pas pensé en arrivant ici. Ils ont débordé largement de des choses qu'on a pu réaliser ensemble dans le cadre propre du workshop. Ils ont fait de la médiation dans des homes, avec des plus jeunes enfants, ils ont écrit des histoires, ils ont fait des reportages. Donc il y a énormément de choses qui se sont greffées sur ce projet initial de workshop tel que je peux les faire d'habitude. Et tout ça, ça m'a surpris. Alors du coup, ça m'a donné une volonté démultiplier, de faire quelque chose de vraiment particulier avec eux et là pour le coup de donner un effort aussi sérieux sur l'investissement que je pouvais avoir par rapport à leur travail, et puis sur l'investissement que je donnais aussi aux œuvres que je créais finalement un peu pour eux dans cette école.
Claude Catelin, artiste contemporain, interviewé au lendemain du vernissage de la double expo, toujours à voir à l'Étrelieu et au Musée des Beaux-Arts d'Arras. Alors côté Étrelieu, les étudiants de l'option art plastique de la classe préparatoire littéraire proposent tous les jours du lundi au vendredi des visites de 18h à 19h15 ainsi que les samedis et dimanches entre 14h et 18h. On a suivi Solène et Lucas à la découverte de quelques œuvres exposées.
Alors on se promène un petit peu là dans l'exposition ici à l'Étrelieu. Donc on est dans un lycée, hein, pour donner une idée aux auditeurs, aux auditrices, les anciens ateliers du lycée professionnel Carnot. Donc un grand espace où sont disposées des œuvres. Il y a aussi plusieurs écrans qui montrent des vidéos. Alors qu'est-ce qu'on regarde là d'abord?
Alors là, c'est une œuvre sans titre, participative.
Alors, c'est une performance qu'on a fait avec Claude Catelin. Il a récupéré énormément de planches de bois, de couleurs très diverses. Et la notion de recyclage fait beaucoup partie de ses œuvres. D'ailleurs, on va peut-être les revoir après. Donc, on a pris ces œuvres-là et on les a collées au mur. On s'est tous regroupés autour d'un petit espace sur le mur en tenant des planches plus ou moins lourdes. Et petit à petit, les élèves partaient, et le but étant de ne pas faire bouger les planches, ou du moins de ne pas les laisser tomber, de ne jamais les relever.
De les tenir autant que possible à la verticale contre le mur, sans les soulever, mais seulement... seulement par la force, par l'appui en fait. Voilà.
Mais fatalement, l'œuvre va forcément finir par se... La performance va forcément échouer. Donc les élèves vont partir petit à petit puisque les planches seront finalement tombées au sol. Et une fois que tout le monde est parti, ça a duré des fois de 30 à 40 minutes, voire presque une heure pour une certaine performance. On part et le résultat est que toutes les planches sont posées au sol. Et Claude Catelin, par exemple, il voit une peinture,
une composition. Avec d'abord peut-être les vêtements des participants qui laissent place au fur et à mesure de l'effort et de l'effort qui laisse place à une composition de bois de diverses couleurs.
Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à un tableau vivant. Alors on peut prendre les choses de deux manières. Hein. Soit on se dit, bon, bah, ils ont vraiment dû s'embêter à porter des planches là pendant de longues minutes. Et puis en même temps, si on regarde un peu avec distance, et effectivement, on peut voir un collage, un tableau un peu vivant. Ouais.
Alors oui, c'est vrai, on s'est embêté. J'ai pas trouvé ça sympa à faire, en tout cas.
Bah, tout d'abord, ça met en difficulté le corps et je sais pas. Une fois qu'on est lancé dans cette performance-là, moi, j'oublie le côté ennuyeux de la chose. Au contraire, je l'ai plus vécu comme ok, je vais tenir le coup le plus longtemps possible. Mais juste pour revenir à ce que tu disais, Lucas, est-ce que tu verrais pas aussi des notions un peu de graphisme à travers ces planches de bois, ces formes, ces...
Si, bien sûr, mais en tant que spectateur, là on était vraiment acteur et on était agglutiné devant ça. Je sais que, enfin, on était, comment dire, les rapports physiques étaient très très, comment dire, on était vraiment, voilà. Et donc c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc j'avoue que j'ai eu un peu de mal, mais à regarder c'est plus agréable.
Voilà. Alors, on peut peut-être passer à une autre œuvre. Donc là on est face à quelque chose de plus plastique là, un amas de planches de bois peintes, j'imagine.
Alors juste pour information, non, elles ne sont pas peintes du tout, elles ont été récupérées dans des bennes de la ville, ou alors ça a été le maire, je crois, qui a autorisé Claude Catelin à récupérer ces planches-là, qui n'ont absolument pas été retouchées, ni repeintes, ni quoi que ce soit, mais peut-être juste nettoyées si elles étaient sales. Et certaines font partie d'ailleurs de la performance dont on a parlé précédemment. Et donc Claude, avec son assistant Maxime, a réalisé ce qu'il appelle des compositions empiriques, c'est-à-dire qu'il posait des planches au sol et les empilait petit à petit, en se disant qu'il faisait une réelle composition. Et toute l'ambiguïté de cette œuvre-là, c'est que c'est seulement en les relevant, en les mettant à la verticale ensuite, que ces planches-là, rassemblées entre elles, prennent vie presque et deviennent une œuvre, aux yeux de l'artiste en tout cas. Donc après, on peut y voir plusieurs notions. Elles sont tenues par des crochets métalliques qui les fixent entre elles. Et souvent, pour rassembler toutes ces planches de bois, certaines ont dû être percées pour atteindre la première que le spectateur voit. Donc on peut y voir des références presque christiques, je dirais. Presque, comment tu dirais ?
Oui, c'est ça. Je pense pas que ce soit réellement la volonté de l'artiste.
Peut-être pas. Mais...
voilà. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le processus et le fait de, comment dire, de relever, en fait, relever, qui donne à l'œuvre sa place et voilà. Et sa forme esthétique
aussi. On peut les
voir
presque comme des tableaux.
Oui, avec la symétrie et des planches, voilà.
Là, on a quitté la grande salle, on est dans la salle annexe. Hein, et là, dans cette salle, sont présentés les travaux réalisés vraiment par les élèves, c'est ça ?
C'est ça, en lien avec le travail qu'on a fait avec Claude Catelin. Il nous a souvent dirigé, conseillé pour ce qu'on a fait. Donc pour ma part, j'étais dans un groupe au début où on était 6. On a décidé de réaliser une performance. Donc on a mis en place une cage métallique et on a mis énormément de câbles, de scotch tout autour de façon à pouvoir y rentrer, mais avec énormément de difficultés. Donc tout l'enjeu était de créer un espace. On a vraiment insisté sur cette notion d'espace, mais aussi de la mise en difficulté du corps. Et des fois, on se retrouvait à 4 ou 5 dans ce petit espace des cages métalliques. On devait... arriver à faire en fonction des autres, et le but étant de chercher la difficulté de mettre en tension notre corps. Et on a fait des petites séquences de 2 minutes au maximum. Et voilà, venez voir les images. Donc le rendu finalement, c'est qu'on a mis une télé dans cette propre cage qu'on a refait avec des fils et des câbles. On a installé la télé à l'intérieur et on laisse tourner la vidéo en boucle, donc en montage avec de courtes séquences, pour c'est notre rendu final finalement. Il fallait quelque chose qui concrétise toutes ces performances qu'on a fait sur environ peut-être deux mois ou trois mois. Voilà, donc le résultat c'est cette vidéo, c'est la seule trace qu'on en ait avec la cage. Voilà.
Alors qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Vous vous sentez enfermé?
Ben, c'est difficile. c'est peut-être au spectateur de juger par lui-même de ce qu'il ressent en voyant ça, mais c'est vrai qu'en étant à l'intérieur, oui, il y a peut-être cette notion d'enfermement, d'oppression, de libération quand on sort, ou des contraintes qu'on s'impose nous-mêmes. Peut-être que c'est encore lié, mais au début, on voulait partir sur la question du féminisme, donc est-ce que c'est encore présent dans cette œuvre-là ou non? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que un avis extérieur peut-être peut vous aider?
Oui, c'est vrai que comme tu es participante, etc. Mais comment est-ce que je vois ça? Je sais pas. Je cherche à savoir ce que peut bien symboliser ce cube rouge dans lequel vous bataillez avec ces liens. Je sais pas trop.
Lucas et Solène, ils font partie des étudiants de classe préparatoire littéraire de Gambetta Carnot qui exposent leurs travaux réalisés lors de la résidence de Claude Catelin. Alors c'est à l'être lieu 21 boulevard Gambetta. Des visites libres et gratuites sont organisées du lundi au vendredi de 18h à 19h15, les samedis et dimanches de 14h à 18h. Également jusqu'au 3 avril, l'expo Claude Catelin à bout de bras, à voir au musée des Beaux-Arts d'Arras. Là c'est tous les jours sauf le mardi, lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h à 18h, samedis et dimanches de 10h à 18h30. Entrée libre et gratuite.